Deuxième partie, le mulet. Chapitre 11. Les jeunes mariés. Le mulet. On en sait moins sur le mulet que sur n'importe quel autre personnage de stature comparable dans toute l'histoire de la galaxie. Ainsi, la période qui correspond à l'apogée de sa gloire ne nous est-elle connue que par le témoignage de ses adversaires, et notamment par celui d'une jeune épouse. Encyclopédia Galactica. Le premier aperçu que Beïta eut d'Oasis fut tout sauf spectaculaire. Son mari dut la lui montrer du doigt, une étoile terne perdue dans le désert de la frange galactique. Elle luisait faiblement par-delà les ultimes amas clairsemés d'étoiles, en compagnie de quelques points lumineux qui, ici et là, parsemaient chichement l'immensité vide du ciel. En dépit de ce modeste voisinage, on peinait tout de même à distinguer sa lueur falote, frêle. Thoran se rendait bien compte que, comme prélude à leur vie conjugale, la naine rouge ne faisait guère impression. Il eut une petite moue de contrariété. « Je sais, Bey, nous n'y gagnons pas vraiment au change, c'est bien ce que tu penses, je veux dire par rapport à la Fondation. C'est affreux, tu veux dire, Thoran, je n'aurais jamais dû t'épouser. » Comme une expression peinée se lisait sur le visage de son époux, elle reprit de son ton le plus enjôleur avant qu'il ait eu le temps de réagir. « Que tu es bête. Ne fais pas cette tête-là, voyons. Prends plutôt ton air de coquère triste, comme quand tu viens blottir ta tête contre mon épaule, que je te caresse les cheveux, et qu'ils sont pleins d'électricité statique parce que tu es stressé. Tu pensais que j'allais te sortir une niaiserie du genre « Avec toi, Thoran, je serais heureuse n'importe où » ou bien « Les profondeurs interstellaires elles-mêmes me seraient un paradis, mon chéri, pourvu que nous y soyons tous les deux. Allons, avoue-le. » Elle braqua un doigt sur lui et le retira précipitamment avant qu'il referme ses dents dessus. « Si je capitule et admets que tu as raison, » fit-il, « est-ce que tu voudras bien préparer le dîner ?» Elle hocha la tête d'un air satisfait et il sourit en la regardant. Elle n'était pas d'une beauté particulièrement extraordinaire selon les canons habituels, il en convenait, même s'il arrivait fréquemment qu'on se retourne sur son passage. Elle avait les cheveux bruns et brillants, quoique un peu raides. Elle avait aussi la bouche un peu trop large. Mais sous un front blanc et lisse et des sourcils admirablement tracés, resplendissaient les yeux à cajou les plus tendres et les plus souriants qu'on eût jamais vus. Et derrière une attitude de façade solidement édifiée et vigoureusement défendue, faite d'esprit pratique et d'un rejet absolu de tout sentimentalisme facile, il y avait quand même, chez cette femme de tête bien décidée à prendre la vie à bras-le-corps, cette petite réserve de douceur qui ne se montrait jamais si on la cherchait à l'aveuglette, mais qu'on pouvait atteindre si on savait s'y prendre et si on ne la cherchait pas trop ouvertement. Thoran manipula quelques instruments de bord sans autre nécessité que de se donner une contenance. Puis il décida de se détendre. Il lui restait encore un saut interstellaire à effectuer, puis plusieurs millimicro-parsecs à parcourir d'affilée avant que le pilotage manuel devint vraiment nécessaire. Il se renversa en arrière pour regarder dans la soute à provisions où Beïta s'affairait avec dextérité parmi les conserves. Il y avait dans son attitude envers Beïta un certain contentement de soi. La satisfaction béate mêlée d'un brin de respect irrationnel marquant le triomphe de quelqu'un qui, pendant 3 ans, a été sur le point de céder à un complexe d'infériorité. Après tout, il n'était qu'un petit provincial. Pis encore, il était le fils d'un marchand renégat. Elle était originaire de la Fondation. Mieux encore, elle descendait en droite ligne du grand Aubert Mallow. Malgré cela, le doute l'assaillait, tenace. Emmener ainsi avec lui la jeune femme sur Oasis, ce caillou truffé de cités troglodytes, était déjà en soi une gageure. Lui faire affronter l'hostilité traditionnelle des marchands pour les gens de la Fondation, des nomades contre des citadins, était plus périlleux encore. Et pourtant. Après le dîner, les attendait le dernier saut du voyage. Oasis rougeoyait désormais furieusement dans l'espace, et on apercevait à ses côtés la seconde planète, petite tache de lumière au contour estompé par l'atmosphère. L'un de ses hémisphères était plongé dans l'ombre. Beïta se pencha sur la grande table d'observation, où, tels les fils d'une toile d'araignée, les repères entrecroisés se recoupaient avec précision sur Oasis 2. « Je regrette, » dit-elle gravement, « de ne pas avoir fait plus tôt la connaissance de ton père. » Thoran répondit d'un ton dégagé. « Tu serais bien la première jolie fille à lui inspirer cette réaction. » Avant de perdre son bras, ce qui l'a obligé à cesser de barouder à travers toute la galaxie, il... Mais il t'en parlera mieux que moi. Si tu l'interroges là-dessus, il t'en rebattra les oreilles. J'ai d'ailleurs fini par penser qu'il brodait, car il ne raconte jamais la même histoire de la même façon. Oasis 2 se précipitait maintenant à leur rencontre. La mer roulait fortement au-dessous d'eux, grillardoise dans l'obscurité qui tombait, et dissimulée çà et là par des lambeaux de nuages. Des montagnes dressaient leurs crêtes déchiquetées le long de la côte. On put discerner bientôt les rides à la surface de l'eau, et quand le vaisseau vira au-dessus de l'horizon, ils eurent une vision fugitive de vastes glaciers côtiers. La brutale décélération arracha un grognement à Thoran. « Ton scaphandre est fermé ?» Beïta sourit, le visage bouffi et empourpré par le casque garni de caoutchouc mousse de sa tenue de vol moulante dotée d'un système de chauffage autonome. Le vaisseau se posa dans un crissement de gravier en plein champ, juste au bord du plateau. Ils descendirent péniblement dans l'épaisse ténèbre de la nuit extragalactique, et Beïta eut un sursaut en sentant la brusque morsure du froid et des tourbillons de vent. Thoran la prit par le coude, l'entraînant tant bien que mal sur la piste vers les lumières artificielles qu'on voyait clignoter au loin. Les gardes qui s'avançaient à leur rencontre les rejoignirent à mi-chemin, et, après un bref échange de paroles, on les emmena vers les bâtiments. Le vent et le froid cessèrent subitement de les harceler quand la lourde porte de pierre s'ouvrit puis se referma derrière eux. À l'intérieur, il faisait doux. L'éclairage répandait une lumière vive et l'on entendait une sorte de rumeur incongrue. Des hommes levèrent le nez de leur bureau et Thoran exhiba des documents. Après un bref coup d'œil, on lui fit signe de continuer et Thoran murmura à sa femme « Papa a dû s'arranger pour les formalités préliminaires. Généralement, ça prend environ 5 heures. » Ils sortirent des bureaux et se retrouvèrent brusquement à découvert. Beïta s'écria. « Oh ça alors !» La cité troglodyte baignait dans la lumière du jour, la blanche lumière d'un jeune soleil. Non bien sûr qu'il y eût un soleil, là où aurait dû se trouver le ciel, régnait une lueur diffuse qui baignait toute chose. Et dans l'air tiède, flottait un parfum de verdure, entêtant et tenace. « Oh, Thoran !» s'enthousiasma Beïta. « Que c'est beau !» Thoran eut un sourire dans lequel se lisait tout à la fois le contentement et l'appréhension. « Bien sûr, Bey, ça n'a aucun rapport avec la Fondation. Mais c'est la plus grande ville d'Oasis 2. 20 000 habitants, tu sais. Et je crois que ça devrait te plaire à la longue. Je pense malheureusement qu'il n'y a guère de distraction. Mais il n'y a pas de police secrète non plus. Oh, Thor ! On dirait une ville pour poupées. Tout est si blanc, si rose et si propre. Ma foi, dit Thoran en observant la ville avec Bey. La plupart des maisons avaient 2 étages et étaient bâties dans la pierre lisse qu'on extrayait communément de la planète. On ne trouvait pas ici les tours et les flèches élancées de la Fondation, ni les colossales maisons communales des vieux royaumes, mais tout ici était agréablement petit et individuel. C'était comme une survivance incongrue de l'initiative personnelle dans un univers où la collectivité était devenue la norme. « Bey !» s'écria-t-il soudain en émergeant de sa rêverie. « Voilà papa, là, là où je te montre. Tu ne le vois donc pas ?» Elle finit effectivement par apercevoir un homme de grande taille qui agitait frénétiquement le bras, les doigts bien écartés comme s'il cherchait à agripper l'air autour de lui. Un appel résonnant comme un coup de tonnerre parvint jusqu'à eux. Beïta se précipita à la suite de son mari sur la pelouse rare et bien entretenue. Elle distingua un homme plus petit aux cheveux blancs qui disparaissait presque derrière le robuste manchot qui continuait à agiter le bras et à crier. « C'est le demi-frère de mon père !» cria Thoran par-dessus son épaule. « Celui qui est allé à la Fondation, tu sais !» Ils se retrouvèrent au milieu de la pelouse parmi les rires et les exclamations, et le père de Thoran, tout à sa joie, poussa une ultime clameur de bienvenue. Il tira sur les pans de sa courte veste et ajusta la ceinture enchâssée de métal qui était sa seule concession au luxe. Il considéra ensuite les deux jeunes gens. Son regard alla de l'un à l'autre, puis il dit, un peu essoufflé, « Tu as mal choisi ton jour pour rentrer, mon garçon. »«
Comment ça ?»«
Ah, c'est l'anniversaire de Seldon, c'est ça ?»«
Tout juste. Il a fallu que je loue une voiture pour venir jusqu'ici et que je me fasse conduire par Randou. Pas moyen de trouver un véhicule public, même sous la menace d'une arme. »
Son regard s'était posé sur Beïta et ne la lâchait plus. Il lui dit d'un ton plus doux.
« J'ai votre cristal ici, et il est bien joli, ma foi. Mais je vois que le type qui l'a fait n'était qu'un amateur. »
Il tira d'une poche de sa veste un petit cube de matière transparente et, à la lumière, le petit visage rieur contenu dans l'épaisseur du cube apparut comme une petite Beïta en miniature.
« Oh non, pas celui-là !» s'exclama Beïta. « Je me demande pourquoi Thoran vous a envoyé cette horreur. Je suis surprise après cela que vous me laissiez approcher, monsieur.
Vraiment ?
Appelez-moi Fran. Pas de cérémonie entre nous. Tenez, prenez mon bras et regagnons la voiture. Je n'avais jamais cru jusqu'à présent que mon fils savait ce qu'il voulait. Mais je crois que je vais changer d'avis maintenant. Bien obligé.
Comment va le paternel ces temps-ci ? Demanda Thoran à mi-voix à son oncle. Toujours aussi coureur ? Un large sourire plissa le visage de Randou.
Quand il en a l'occasion, Thoran, il se souvient parfois qu'il va sur ses 60 ans et ça le décourage un peu. Mais il crie un bon coup, cela chasse ses idées noires, et il redevient lui-même. C'est un marchand de la vieille école. Mais toi, Thoran, où as-tu trouvé une aussi jolie femme ?
Tu voudrais que je te résume en 5 minutes une histoire qui a duré 3 ans, mon oncle ? S'esclaffa le jeune homme en le prenant par le bras. Lorsqu'ils furent dans le salon minuscule de la maison, Beïta se débarrassa de la lourde capeline de voyage et libéra ses cheveux. Elle s'assit, croisa les jambes et soutint le regard approbateur de ce grand gaillard un peu rougeau qui serait désormais son beau-père.
« Je sais que vous essayez de calculer, » dit-elle. « Je vais vous faire gagner du temps. Âge 24 ans, taille 1,65 m, poids 50 kilos. Études, diplôme d'histoire. »
Elle remarqua qu'il se tenait toujours de côté comme pour dissimuler son bras manquant. Mais voilà que Fran se penchait à présent vers elle pour lui dire « Puisque vous en parlez, poids 55 ». Il éclata de rire en la voyant rougir, puis il lança à la compagnie en général « On peut toujours deviner le poids d'une femme en lui palpant le bras, à condition bien sûr d'avoir une certaine expérience. » « Voulez-vous boire quelque chose, Bey ?»«
Entre autres, » dit-elle.
Et ils sortirent tous les deux tandis que Thoran regardait sur l'étagère si de nouveaux livres étaient venus enrichir la bibliothèque. Fran revint seul et dit « Elle va redescendre dans quelques instants. » Il s'installa pesamment dans le grand fauteuil et posa sa jambe gauche, qu'il avait visiblement du mal à plier, sur un tabouret qui se trouvait là. Tout sourire avait déserté son visage rouge et Thoran se tourna vers lui.
« Eh bien, » dit Fran, « te voilà rentré, mon garçon, et j'en suis bien content. Ta femme me plaît. Ce n'est pas une de ces petites bécasses qui passent leur temps à pleurnicher pour un oui ou pour un non.
Je l'ai épousée, »
se contenta de répondre Thoran.
« Ça, mon garçon, c'est une autre histoire. »
Son regard s'assombrit.
C'est de la folie d'engager l'avenir comme ça. Moi qui, par la force des choses, ai vécu plus longtemps que toi, et donc davantage d'expérience, je n'ai jamais fait une chose pareille. »
Du coin où il se tenait, Randou l'interrompit.
« Enfin, Fransard, qu'est-ce que c'est que ces comparaisons ? Jusqu'à ton accident de vaisseau il y a 10 ans, tu n'es jamais resté au même endroit assez longtemps pour obtenir le certificat de domicile prénuptial. Et depuis, qui pourrait bien vouloir d'un type comme toi ? Je te le demande. »
« Un paquet de bonnes femmes, figure-toi, espèce de vieux sénile, » répondit aussitôt le manchot en se dressant sur son siège visiblement furieux.
« C'est surtout une formalité légale, papa, » s'empressa d'ajouter Thoran avec tact. « La situation a ses avantages. »«
Surtout pour la femme, »
grommela Fran.
« Et quand bien même, » concéda Randou, « c'est au garçon de décider. Le mariage est une vieille coutume chez les habitants de la Fondation.
Les gens de la Fondation ne sont pas des exemples à suivre pour un honnête marchand,
rumina Fran.
Ma femme fait partie de ces gens-là, intervint à nouveau Thoran. Son regard alla de l'un à l'autre, puis il ajouta un ton plus bas. D'ailleurs, la voici qui arrive.